La terre, disait Francis Ponge, ramassons simplement une motte de terre. Ce mélange émouvant du passé des trois règnes, tout traversé, tout infiltré, tout cheminé d'ailleurs de leurs germes et racines, de leur présence vivante, c'est la terre, ce hachis, ce pâté de la chair des trois règnes, passé non comme souvenir ou idée, mais comme matière, matière à la portée de tous, du moindre bébé qu'on peut saisir par poignée, par pelletée. Si parler ainsi de la terre fait de moi un poète mineur ou terrassier, je veux l'être, je ne connais pas de plus grand sujet. Comme on parlait de l'histoire, quelqu'un saisit une poignée de terre et dit « Voilà tout ce que nous savons de l'histoire universelle. Mais cela, nous le savons, le voyons, nous le tenons, nous l'avons bien en main. Quelle vénération dans ces paroles !» Ce qui est tout à fait spontané chez l'homme touchant la terre, c'est un affect immédiat de familiarité, de sympathie, voire de vénération quasi filiale, parce qu'elle est la matière par excellence. Or la vénération de la matière, quoi de plus digne de l'esprit ? Tandis que l'esprit vénérant l'esprit, voit-on cela ? On ne le voit que trop. Francis Ponge, 1950.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang de quelle terre ? Nous parle mon invité d'aujourd'hui. Il est l'écrivain des temps disparus, de la ruralité, de la transmission nécessaire aussi. Grande figure de la littérature populaire depuis Les Cailloux Bleus, son nouveau roman, Même les arbres s'en souviennent, apparu début octobre. C'est l'histoire d'un homme né au début du siècle dernier dans le Limousin et qui, en déroulant le récit d'une vie, nous éclaire sur le dur présent de nos campagnes. Bonjour Christian Signol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous en prie.
Ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la terre ? Pour vous ?
La Terre, pour moi, c'est le monde vivant, le monde sensible, par opposition aux grandes métropoles, auxquelles je suis assez, finalement, allergique. C'est-à-dire, je viens assez souvent à Paris, mais je repars vite, hein, je m'enfuis 3 ou 4 jours, et puis ça suffit.
Mais alors, en quoi, en un peu plus d'un demi-siècle, tout a changé ? En ce qui concerne la terre, en quoi la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation d'engrais, de pesticides, mais aussi l'agrandissement des parcelles, a-t-il bouleversé notre rapport à la terre ?
Parce que les jeunes, les agriculteurs ont été obligés de partir. Par exemple, le plan Mansholt de 1968 prévoyait que entre 1970 et 1980, 5 millions d'agriculteurs devaient disparaître en Europe. Et donc, ces lois qui provenaient à l'origine des lois d'orientation agricole des années 60, qui ont instauré le productivisme, l'agrandissement des parcelles et tout ce qui allait avec, c'est-à-dire l'endettement des agriculteurs, ont fait qu'ils ont dû partir parce que ils ne pouvaient plus s'installer.
Et ça, ça a changé notre perception, notre relation à la terre, à tous et toutes.
À tous. Tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est totalement différent. Par exemple, il n'y a plus de haies dans les champs à cause du ruissellement des eaux. Les nappes phréatiques sont polluées par les engrais azotés et les nitrates. Ce sera d'ailleurs un grave problème à l'avenir dans les 20 années qui arrivent, hein. Et pas très connu aujourd'hui, mais ce sera le grand problème du monde rural à l'avenir. Ça.
Vous êtes inquiet, Christian Signol, vous êtes en colère.
Je suis en colère, mais en même temps, on en est arrivé à une telle absurdité avec ce productivisme qui a ruiné les agriculteurs, et aussi le fait qu'on les subventionne pour qu'ils ne produisent pas, et même quand ils arrivent à produire, ils ne peuvent pas vendre leurs produits auprès de la grande distribution qui ne le paye pas assez fort pour qu'ils aient un prix de revient qui leur permette de vivre. Donc je suis inquiet, mais en même temps, on sait par exemple qu'il y a 5000 agriculteurs bio qui s'installent chaque année en France. Et avec l'agriculture bio, la permaculture, les protéines végétales, les choses comme ça, je me dis qu'il y a peut-être quand même un avenir, j'espère.
Vous savez, ma famille est auvergnate, mon père et ma mère également, et ils me rappellent toujours qu'on semble avoir oublié que la France était un pays rural, un pays d'agriculture. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui, en France, ces agriculteurs qui, il n'y a pas si longtemps, manifestaient à Paris, Christian Signol ?
Alors, ils manifestent parce qu'ils se sentent dénigrés par une partie de la population, mais ce sont quand même plutôt, à mon avis, simplement les réseaux sociaux, parce que je pense que la majorité des Français savent qu'ils n'ont aucune culpabilité, aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis 50 ans, les lois d'orientation agricole ont fait qu'ils ont instauré le productivisme, le rendement à l'hectare, la mécanisation, les pesticides, les insecticides, tout ce qui va avec, l'endettement et tout ça. Mais ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été entraînés dans cette spirale infernale du productivisme et que s'ils n'avaient pas suivi le mouvement, ils auraient disparu. Donc ils n'ont pas eu le choix.
Ce que vous nous dites, c'est que les agriculteurs sont comme nous, victimes et prisonniers d'une certaine économie.
Absolument. De l'ultralibéralisme et donc du productivisme qui va avec. Alors on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir alimenter les 180 millions d'habitants de l'Europe. En réalité, il y a eu très vite une surproduction. ce qui fait que les prix sont écroulés et que ça les a ruinés. Ils se sont fait avoir finalement, parce que qui en a profité? Les grandes sociétés industrielles américaines qui non seulement produisaient les semences, mais également les produits qui allaient avec, c'est-à-dire les insecticides et les pesticides.
Dans Même les arbres s'en souviennent, votre nouveau roman, vous racontez, Christian Signol, sur près d'un siècle, la lente mutation du monde rural et agricole à travers le destin d'une famille. Et j'ai l'impression que ce que vous interrogez, somme toute, c'est la notion de progrès. Se serait-on par hasard leurré sur ce qu'était le progrès?
Totalement. Tout simplement parce que ce sont pas la morale et les idées qui gouvernent le monde, mais ce sont les lois économiques dont le profit est le moteur permanent. Hein, parce que si on avait eu le choix, on ne serait pas lancé dans une course aussi folle vers le productivisme et les engrais, les pesticides qui vont avec.
Alors qu'est-ce que ce serait le progrès?
Le progrès, ce serait une agriculture raisonnée, genre agriculture bio, permaculture, protéines végétales, ce que sera peut-être l'avenir, en tout cas je l'espère.
Et le passé, c'est ça qui est absolument passionnant chez vous, Christian Signol, à vous lire. On a l'impression que le progrès ne peut exister qu'à condition d'intégrer les enseignements du passé, de ne pas les oublier. De quoi faut-il à tout prix continuer à se souvenir, garder la mémoire?
Renan disait que les vrais grands hommes de progrès sont ceux qui ont vraiment le respect le plus profond du passé. Et je crois que c'est vrai, je crois qu'il faut expliquer ce qui s'est passé dans les familles, quand c'était si difficile au début du XXe siècle, même à la moitié du XXe siècle même. C'était tellement difficile que les gens ont dû travailler très durement, etc., etc. Mais ils vivaient de leur travail. Alors qu'aujourd'hui, les paysans vivent des subventions. La plupart du temps. Et c'est ça qui les démoralise, finalement, beaucoup plus que l'étranglement financier.
Et les tue, oui.
Oui, c'est plutôt la démoralisation par rapport à la vie qu'ils mènent. Être payé pour ne rien faire, par exemple, pour pas produire, c'est quelque chose d'hallucinant, quand même. Il met dans une souffrance qu'on peut pas supposer, qu'on ne maîtrise pas, on ne mesure pas à quel point ils sont malheureux.
Quand est-ce que vous avez compris, vous, que votre rôle, en tant qu'écrivain, ce serait, à travers les histoires que vous racontez, d'entretenir la mémoire d'un monde disparu?
J'ai compris quand ça a basculé, moi. C'est-à-dire, j'étais encore dans le village dans les années 60, à la campagne, hein, et j'ai vu les tracteurs remplacer les chevaux, j'ai vu disparaître les charrettes, j'ai vu qu'à ce moment-là, on était entré dans la mécanisation à outrance, et qu'à partir d'un certain seuil, l'énergie mécanique a supplanté l'énergie animale. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je pense que c'est en 1964, ça a été calculé, le basculement s'est fait en 1964.
Alors de quelles histoires est-ce que vous vous sentez dépositaire encore aujourd'hui?
Je me sens dépositaire de la mémoire de ceux qui ont mené cette vie qui était finalement une vie raisonnable, raisonnée, faite de morale, d'honnêteté. C'était une vie rude, dure, mais justement, moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille où les gens étaient bienveillants, c'était des gens honnêtes, des gens courageux, qui travaillaient le jour et la nuit, et qui se plaignaient jamais.
C'est la mémoire de votre famille, en fait.
C'est la mémoire de ma famille, parce que mes parents n'étaient pas paysans, ils étaient commerçants, mais tous mes grands-parents, ceux de Dordogne et ceux du Quercy, étaient des paysans. Et j'ai connu ce monde rural, moi, à ce moment là, auprès de mes grands-parents.
À quoi est-ce qu'il ressemblait le village de votre enfance?
Oh, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait encore, sur la place publique, arrivaient des gitans avec des roulottes et des chevaux. C'était pas les roulottes d'aujourd'hui, les grands camions, etc. Donc, ils arrivaient à leurs chevaux, ils réparaient les mailles des bassines, ils faisaient danser les singes, on allait au cirque le soir, enfin, c'était une époque où c'était la simplicité, la raison et la sagesse qui étaient de règle. On se sentait, je me sentais, en sécurité totale dans ce monde-là. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand j'étais chassé de ce monde-là, à 11 ans pour partir en pension au lycée à Brive, j'en étais très malheureux.
Parce qu'aujourd'hui, ce village, vous y retournez, parfois il ressemble à quoi?
J'y retourne, alors effectivement, sur tous les petits commerces qui existaient à l'époque, il y a écrit « à vendre ». Même encore les écoles, une école a fermé à la rentrée dernière, bien qu'il y ait dans cette école le regroupement pédagogique comme il existait justement pour que les écoles soient pas supprimées, c'était un CM2 dans un village, un CM1 dans l'autre, etc. Mais quand même, l'école a disparu. Et dans le village où je suis né, cette année, hein, c'est l'agence postale qui a disparu. Alors, on nous dit qu'il faut faire des économies parce que le budget de la France est endetté, etc. Oui, c'est vrai, mais les économies, à mon avis, elles sont pas là. C'est pas le salaire d'une petite institutrice d'un village perdu qui peut solutionner les choses. Les économies, elles sont dans les grandes administrations, dans les grands ministères, peut-être au Sénat, dans qui une survivance de la Troisième République, hein, le bicamérisme, c'est fini aujourd'hui, les choses comme ça. Il est là, l'argent, il est dans les grandes métropoles, il n'est pas dans le monde rural.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de votre vie, Christian Signol, vous êtes assez peu éloigné, somme toute, de votre terre d'origine. Vivre loin de vos racines, ça aurait été possible ?
Non. J'ai fait en sorte de pas m'en éloigner, bien que j'habite Brive, hein, c'est une ville moyenne, mais je suis à portée, c'est-à-dire à 20 minutes du village où je suis né.
Qu'est-ce que vous y puisez dans vos racines ?
Et j'y puise la force des gens qui y vivaient à l'époque. Et j'espère aussi l'honnêteté intellectuelle qui était la leur. Notamment mes grands-parents, avec lesquels je vivais beaucoup, parce que mes parents étaient très occupés, etc., etc.
Celle dans laquelle on ne puise rien dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Christian, c'est la culture. Et son actualité aride, infertile et pauvre. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? You, toi, Maria, 25 ans après sa sortie, le tube de Noël de Mariah Carey s'est enfin hissé à la première place du classement Billboard des ventes de singles aux États-Unis. Ça faisait 11 ans que la diva n'avait plus été numéro 1 des charts. Période de Noël oblige, nouvelle tournée, sa vente promo sur les réseaux, c'est la recette magique qui permet d'expliquer le retour en grâce de ce tube de 1994 qui, on peut le dire, a inventé Noël. Ave Maria.
J'ai pas voulu y croire jusqu'au moment qu'ils sont annoncés publiquement.
Argento d'intérêt, l'actrice italienne Asia Argento, figure décriée du mouvement MeToo, a été choisie pour présider la 27e édition du Festival du film fantastique de Gérard May. C'est la première fois que la manifestation nomme une femme à ce poste, attendue entre le 29 janvier et le 2 février prochain. Le festival mettra à l'honneur l'épouvante à la française avec une grande rétrospective de genre, en présence notamment d'Olivia Assayas, Marina Devan, Yann Kounen ou Christophe Gans. Impatience. Reader is coming. George R.R. Martin, auteur des romans Game of Thrones, a ouvert une librairie à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, juste à côté de son cinéma Jean Cocteau. L'enseigne baptisée Beastly Books, en hommage au film La Belle et la Bête, a notamment été conçue pour organiser l'accueil de grands auteurs en dédicace et la vente de leurs ouvrages. Dans les rayons, on trouve ainsi des livres de Lee Child, Leonard Maltin ou Anne Peris, très que chise. Allez Chico, on remet la gomme. Le film le plus attendu de l'année débarque aujourd'hui dans les salles. Star Wars, l'ascension de Skywalker, 9e épisode de la mythique franchise, vient clore la 3e et dernière trilogie de la saga Skywalker, amorcée en 1976 par George Lucas. Aux commandes, J.J. Abrams qui orchestre le retour du côté obscur de la force dans un bouquet final de pyrotechnie stellaire. Que la force et le pop-corn soient avec nous. C'est Noël. Christian Signol, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau roman « Même les arbres s'en souviennent », dans lequel un homme, né en 1915, raconte, on le disait, l'histoire de sa famille. Cet homme a consacré sa vie au travail de la terre, pourtant sa vie aurait pu être tout autre, grâce à l'école, notamment. Nos vies ne nous appartiennent pas, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?
Ça veut dire qu'à cette époque-là, on maîtrisait pas le destin. C'est-à-dire qu'il aurait pu continuer l'école et qu'il a été obligé de travailler très tôt, à l'âge de 12 ans, quand son père adoptif est mort. Mais ça a été aussi le cas de mes parents. Mes parents auraient voulu faire des études après le certificat d'études. Ils n'ont pas pu parce qu'il fallait passer à l'époque l'examen des bourses parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens. Si vous voulez, ma mère a passé le concours d'entrée pour être institutrice et elle n'a pas été reçue pour une simple raison, c'est qu'on lui a posé une question sur Madagascar qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait jamais entendu parler. Et donc elle n'a pas pu accéder à l'école comme institutrice alors que c'était le rêve de sa vie.
Aujourd'hui, nos vies, elles nous appartiennent ?
Très très peu. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui de trouver, comment dire, une profession, une occupation qui permette de s'élever intellectuellement, parce que encore une fois, ce sont pas les idées qui gouvernent le monde. On le sait bien aujourd'hui, c'est ni la morale ni les idées. Ce sont des lois économiques qui font que on est obligé de s'adapter à un monde devenu très difficile à vivre et où, dans les grandes métropoles, à mon avis, les hommes ont retrouvé des réflexes animaux de survie.
N'empêche, le fait que le destin ne nous appartienne pas, c'est passionnant pour un romancier, non ? Qui écrit des histoires, qui écrit des vies.
Oui, mais en même temps, c'est douloureux pour ceux qui le vivent. Et donc, écrivant l'histoire de ceux qui vivent ça, C'est presque aussi douloureux pour moi que pour eux. Enfin, je veux dire que quand on écrit, on le ressent, ça. Sinon, l'émotion ne passe pas.
C'est une expérience de la douleur pour vous, l'écriture.
Oui, c'est une expérience de la douleur. C'est-à-dire que tous les matins, je me mets à écrire, mais on ne sait jamais si le parachute va s'ouvrir. Hein. C'est comme disait Jean Carrière ou Jean Giono. Tous les matins, on se jette dans le vide, mais on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. Jusqu'à présent, il s'est toujours ouvert, mais s'ouvrira-t-il à l'avenir? Je ne sais pas.
En tout cas, je le disais, il y a ce lieu qui est fondamental dans l'histoire que vous racontez, un lieu auquel vous rendiez hommage déjà dans un livre qui s'appelait Une si belle école. C'est de l'école. Évidemment, pour vous, quel lieu est-ce que ça a été l'école, Christophe
Signol? Ça a été quelque chose d'extraordinaire, l'école primaire, hein, primaire, hein, pas le lycée, j'étais en prison, j'étais en pension. Je parle de l'école primaire. C'est en prison, le lycée. L'école primaire, parce que, au fond de cette école primaire, il y avait une petite bibliothèque de 3 étagères où il y avait toute la poésie de Victor Hugo. Et moi, j'ai lu toute la poésie de Victor Hugo avant l'âge de 12 ans. Et quand le maître d'école, un jour, nous a demandé, je devais être en CM2, donc, quel métier voulez-vous faire plus tard? Je lui ai dit, je voudrais devenir écrivain. Eh bien, ce maître d'école qui vivait au fin fond de la province, tout ça, n'a pas ri. Au contraire, il m'a dit, si tu veux vraiment le devenir, tu le deviendras.
C'est vrai qu'il y a souvent une rencontre avec un enseignant qui peut s'avérer marquante, voire fondatrice, Madame Poré, en ce qui me concerne. S'il y en a eu une pour vous, c'est bien celle-là.
C'est cet instituteur de CM2 qui était un homme extraordinaire.
Comment s'appelait-il?
Il s'appelait Monsieur Farjas. Et j'ai retrouvé son fils ensuite, qui était directeur de l'université de Nantes. Mais je l'ai retrouvé grâce à l'un de mes livres, parce que je parlais de son père.
Ouais. Il y a cette scène très forte hein, dans votre roman où l'instituteur se rend chez les parents de votre narrateur pour leur dire que leur fils est doué et qu'il pourrait, s'il le souhaitait, l'envoyer étudier dans un pensionnat. À cette époque, on est encore à l'aube des années 30. Qu'est-ce qu'il incarne, l'instituteur?
Il incarne le savoir et l'avenir. C'est-à-dire, c'était une des seules solutions à l'époque pour les gens de la terre de changer de statut. D'ailleurs, beaucoup de paysans de l'époque, de femmes, d'hommes de l'époque, ont passé le concours d'entrée à l'école normale.
Oui.
Et c'est ce qui les a sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont tous devenus instituteurs. J'en connais énormément, hein, qui sont devenus instituteurs. Ils ont changé aussitôt de statut. Et ça a été pour eux un progrès intellectuel et social extraordinaire.
Mais pourquoi cette fonction a-t-elle perdu de sa superbe, de son prestige, du respect qui lui était autrefois dévolu?
Parce qu'aujourd'hui, autrefois dans les villages, les instituteurs étaient les seuls membres de la commune qui avaient de l'instruction. Et donc ils étaient tous à peu près secrétaires de mairie. Et donc, ils avaient acquis quand même un statut très très important.
De notable.
De notable, de oui. Notable. Et tout le monde venait leur demander conseil, y compris le maire, hein, qui ne connaissait pas les lois, ni avait du mal à rédiger des lettres ou du courrier normal, traditionnel.
Il y a ça, et puis il y a une perte quand même de la valeur du service public pour beaucoup de monde aujourd'hui. Nous nous sommes bien placés pour le savoir ici à la radio.
Et oui, une perte du service public, mais pas uniquement dans l'école.
C'est lié à quoi ça?
C'est lié au fait que, à cause de l'endettement du budget en France, on est obligé de supprimer des postes de fonctionnaires. Donc il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de fonction publique. Hein, il y en a de moins en moins. Mais encore une fois, l'argent, il n'est pas là. Il n'est pas dans le milieu rural, il n'y en a pas. Tous les boutiques, il y a écrit à vendre partout. Donc l'argent n'est pas là, il est ailleurs.
Qu'est-ce qui vous donne espoir?
Quand je vais dans les lycées et collèges, je finis toujours en disant que le meilleur de la vie est toujours à venir. Toujours. Et donc,
je vous pose la question, Christian Signol, parce qu'en fin de compte, ce que vous racontez dans Même les arbres s'en souviennent, c'est quand même l'histoire d'un très vieil homme qui retrouve l'espoir au contact notamment de son arrière-petit-fils, un citadin trentenaire qui exprime le besoin de se reconnecter à ses racines. Dans quelle mesure est-ce que vous faites confiance aux générations à venir?
Je fais confiance aux générations à mesure, dans la mesure où elles sauront, justement, aller prendre des forces, les forces nécessaires, dans le passé et dans l'histoire de leur famille. C'est-à-dire, quand ils pourront connaître le trajet qu'ont effectué tous ces gens qui ont beaucoup plus souffert qu'eux au cours du XXe siècle. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui explique le succès de ces livres, c'est que finalement, ce que je fais, c'est que j'écris l'histoire des familles françaises. C'est-à-dire, de toutes les familles qui sont passés en 60 ans, 70 ans, de la basse paysannerie à l'université. Ça me paraît très représentatif de l'évolution du XXe siècle.
On va reparler de tout ça, évidemment, de nature, de fragilité, de transmission aussi, juste après Neil Young, Old Man, sur l'album Harvest en 1972. On mérite bien ça, quand même. Vous êtes sur France Inter, avec Christian Signol, vous écoutez Boomerang.
My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a
lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est vrai que c'était assez troublant quand même, parce que c'est vrai qu'on est quelque part entre l'instit de ma primaire et Louis la Brocante. Éminemment sympathique, l'œil franc, le sourire sincère et le cheveu honnête, il n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. On s'imagine à ses côtés lors de longues promenades en forêt, à écouter bruisser les arbres et les feuilles mortes, puis au coin du feu, à siroter un grog en feuilletant de vieux albums de famille. Il est chaleur humaine, avec sa chemise bleue rayée et sa veste bleu marine, l'écrivain Christian Signol.
En velours.
En velours, s'il vous plaît. Invité de Boomerang ce matin, Christian Signol, pour Même les arbres s'en souviennent, votre 39e roman. Alors avant de devenir écrivain, vous étiez évidemment un lecteur. Comment est-ce qu'il est né ce goût de la lecture ?
Il est né très tôt à l'école primaire, tout simplement.
Avec Victor Hugo ?
Oui, avec Victor Hugo. Il n'a fait que croître par la suite. J'ai beaucoup lu dans mon adolescence Camus pour son humanité, Giono pour ses rapports avec le monde. Je suis même allé à Manosque, dans le bureau de Giono, je me suis assis dans son fauteuil. Je suis même allé au Contador, où avant la guerre, Giono recevait les pacifistes avant la guerre 39-45. Et je suis même allé dans la bergerie des Fraches, où il avait écrit Giono avec son ami Lucien Jacques, Le monde n'appartient pas à ceux qui le possèdent, mais à ceux qui le contemplent.
Mais quelle place avaient les livres dans votre famille ?
Il y avait des livres chez moi. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même des livres. Et puis bon, surtout ensuite au lycée, bon, il y avait des livres, mais il y avait La Gare des Michards aussi. Hein. On étudiait toute la littérature, finalement.
Mais le statut d'écrivain, qu'est-ce que ça représentait pour vos parents, Christian Signol ?
Ah, pour eux, c'était inaccessible. Mais pour moi aussi, d'ailleurs. Hein. Parce que, comment vous dire, pendant 10 ans, moi, j'ai écrit pendant 10 ans des livres qui ont été refusés par les éditeurs. Mais chaque fois que je recevais une lettre de refus d'un éditeur, je me remettais à écrire le jour même. Le jour même. Ça veut dire que C'était une nécessité impérieuse, hein. C'était vital finalement.
Tout le monde savait que vous vouliez écrire dans votre famille.
Non. C'était inavouable parce que c'était inaccessible. Mais à partir du moment où, au bout de 10 ans, j'ai eu un manuscrit accepté par Robert Laffont, c'était en 1984, je suis passé de rien du tout à 100 000 en un mois. Et là, j'ai su que c'était gagné quand même.
100 000 exemplaires ou 100 000 francs?
100 000 exemplaires. C'était beaucoup plus que 100 000 francs à l'époque. C'était inespéré.
Vous dites que vous écriviez beaucoup et très tôt. Quelles histoires est-ce que vous racontiez?
Ben, c'était un peu, c'est l'histoire de l'évolution du monde rural.
Mais déjà?
Déjà. Ben oui, parce que c'est l'univers que, dans lequel je suis né et que je connais le mieux, finalement. Je peux pas écrire sur les grandes métropoles, moi, hein. C'est absolument impossible. Donc, j'écrivais ça. C'était des petites nouvelles, finalement, mais qui n'étaient pas très abouties. C'est-à-dire que les éditeurs avaient raison, hein. Parce que l'écriture, en France, il n'y a pas d'atelier d'écriture comme aux États-Unis, par exemple, dans les universités. Donc, c'est un métier qui s'apprend tout seul, solitaire. Et j'ai mis 10 ans.
Vous êtes vu progresser?
Oui. Et je suis... pas, comment dire, je n'en veux pas au directeur des maisons d'édition qui refusait ces manuscrits parce qu'effectivement, ils n'étaient pas parfaits.
Alors, ça voudrait dire, Christian Signol, que depuis des années, depuis 39 livres, vous essayez de faire exister le passé, celui de votre famille, celui du monde rural, celui de cette tradition dont vous nous parlez. Est-ce que votre travail, ça n'aurait pas été de d'écrire le grand roman, justement, petit à petit, tout en progressant?
J'ai essayé d'écrire chaque fois une partie de cette évolution, mais il m'est arrivé aussi d'écrire des sagas qui couvraient le siècle, hein,
oui.
Que ce soit avec les Cailloux Bleus, les Mantes Sauvages, ou avec la Rivière Espérance, ou avec les Noëls Blancs. C'était des régions différentes, mais c'était quand même l'histoire du siècle. Hein. Donc, non, j'ai toujours senti qu'il fallait essayer de témoigner de cette évolution extraordinaire, finalement, qui nous a fait changer de monde, totalement.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de retrouver quand vous écrivez?
J'essaye de retrouver ces émotions et ces sensations qui me rendaient si heureux à l'époque. D'ailleurs, un ami psychiatre m'a expliqué que si je m'étais mis à écrire... C'était parce qu'on m'avait privé, par mon entrée en pensionnaire au lycée à 11 ans, du bonheur que j'avais connu avant.
Je
crois que c'est un peu vrai. Je crois que c'est vrai. D'ailleurs, dans tous mes livres, il est beaucoup question ou d'instituteur ou d'enfance. J'écris bonheur d'enfant, j'écris le vrai bonheur, mais ce sont des bonheurs liés à l'enfance. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de me réapproprier ce monde-là parce que c'était pour moi le paradis terrestre.
J'aimerais qu'on entende quand même, Christian Signol, la voix d'un écrivain que vous avez choisi ce matin. Cette voix, c'est celle de Jean Giono. En 1965, c'était sur France Culture.
Je vais te parler du phénomène de l'écriture pour t'expliquer toujours comment se fait un livre. Qui pour moi est très important, c'est que je me mets toujours au travail le matin devant ma page sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. Car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est de me raconter ce livre. Plus que d'écrire un livre pour écrire un livre. Si le livre m'ennuie, je le quitte et je fais autre chose. On peut maintenant, à mon âge, se passer d'écrire un livre. Mais... le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs. J'aime avoir un porte-plume entre les mains, j'aime l'encre noire, j'aime le papier sur lequel j'écris, et j'aime la façon que j'ai d'écrire.
C'est un frère d'écriture, j'ai l'impression, Christian Signol, pour vous, Jean Giono.
Oui, tout à fait, je l'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup aimé. Mais j'écris pas tout à fait comme lui, parce que pour moi, comment vous dire? Par exemple, quand je vais dans la lycée et collège, les élèves me demandent « Monsieur, est-ce que vous croyez à l'inspiration ?» Je leur dis « Non, je crois à la transpiration, c'est-à-dire au travail quotidien. » Alors ils me demandent aussi « Est-ce que ça vient tout seul ?» Non, ça vient pas, il faut aller le chercher. C'est très très difficile, on va chercher dans les couches profondes de la mémoire ou de l'imagination, ce qui est nécessaire à l'écriture dans le livre, mais c'est très douloureux.
Et qu'est-ce que vous avez l'impression de partager avec Giono ?
Je partage avec Giono les rapports avec le monde vivant, le monde sensible.
Le lien à la terre. Hein.
La terre, les forêts, les rivières. D'ailleurs, j'ai beaucoup écrit sur les forêts et les rivières. J'ai écrit la rivière Espérance, j'ai écrit au cœur des forêts. C'est ce monde vivant, ce monde naturel qui m'est à moi indispensable. Je ne pourrais pas vivre dans une grande ville.
Et puis la consolation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, écrire des livres qui consolent? Je vous pose la question parce qu'à plusieurs reprises, vous avez entendu employer ce terme au sujet de vos livres.
Oui, c'est vrai. J'essaye de faire du bien aux gens. plutôt que de leur faire du mal, parce que je considère qu'aujourd'hui, il y en a assez comme ça et que ça suffit. Donc j'essaye de leur faire du bien en écrivant sur des personnages le plus souvent qui ressemblent beaucoup à ceux que j'ai connus moi quand j'étais enfant, c'est-à-dire des personnages bienveillants, chaleureux.
De quoi
et le bavardage intellectuel, bref, tout ça. Moi je suis plutôt... J'essaye d'avoir une écriture qui touche naturellement au monde sensible, finalement, quoi.
De quoi vous avez besoin qu'on vous console, vous ?
De plus rien, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, j'aurais besoin de savoir que tout ça va changer, s'améliorer, peut-être grâce aux nouvelles techniques qui feront peut-être que les urbains pourront revenir et faire revivre ce monde rural qui est aujourd'hui déserté, notamment par le télétravail ou des choses comme ça. Hein.
Et l'éblouissement face à la nature, Christian Signol, un oui. Éblouissement dont témoigne chacun de vos livres. Quelle consolation est-ce que c'est pour vous ?
Assez extraordinaire, parce que moi, par exemple, chaque jour, l'après-midi, je prends ma voiture et je vais auprès de ce monde sensible, dont mon ami Pierre Bergogneau écrit qu'il s'agit de bien 100 mètres.
Qui est venu à ce micro, Pierre.
Oui, je connais bien Pierre. Parce qu'il est originaire de la Corrèze, comme moi. Et nous étions au même lycée, au lycée Cabanis à Brive, avec Pierre Bergogneau. Il appelle ça les bien 100 mètres, c'est-à-dire les forêts, les rivières qui appartiennent à tout le monde, si vous voulez. Et ce contact m'est absolument indispensable. Sinon, je ne pourrais pas vivre heureux comme je le suis aujourd'hui.
Merci infiniment.
Je vous en prie.
Christian Signol, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour votre parole. Ce matin, je rappelle que Même les arbres s'en souviennent est publié aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui vous donnera envie de quitter un peu la ville, les grandes métropoles, et de faire parler vos grands-parents aussi. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang. Lola Costantini, Céline Hila, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Martinery, Joséphine Dumoulin et Jean-Baptiste Audibert. À lundi, les cocos. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.